Mathilde laissa retomber le classeur sur ses genoux. Voilà que son père avait réussi à lui donner mauvaise conscience parce qu'elle avait séché le dernier jour. Ah, le petit malin. Elle se demanda en quoi pouvait consister le plan d'Alberto. Et si elle regardait à la dernière page? Non, ce n'était pas bien. Il valait mieux se dépêcher d'avancer dans l'histoire. Il était un point sur lequel elle était sûre qu'Alberto avait raison. Son père contrôlait bien sûr ce qui arrivait à Sophie et Alberto, mais il ne pouvait néanmoins pas savoir tout ce qui allait se passer. Peut-être laissait-il sa plume courir sur le papier et il ne se rendait compte que plus tard de ce qu'il avait écrit. C'était précisément dans ce laps de temps que résidait la liberté toute relative de Sophie et Alberto. Hilde eut de nouveau la vive impression que Sophie et Alberto existaient vraiment. Sous la surface d'un océan parfaitement calme, peuvent se produire toutes sortes de phénomènes en profondeur, se dit-elle. Tiens, pourquoi cette image lui était-elle venue à l'esprit? Ce n'était certainement pas une pensée à la surface de l'eau.
À l'école, on félicita Sophie pour son anniversaire et elle eut droit à la petite chanson habituelle. L'ambiance était particulièrement gaie du fait qu'on venait de remettre les bulletins et de commencer la fête. Après les recommandations d'usage, on lâcha les élèves dans la nature. Et Sophie rentra comme une flèche à la maison. Yoron eut beau essayer de la retenir, elle cria qu'elle avait quelque chose d'urgent à faire. Elle trouva deux cartes du Liban dans la boîte aux lettres qui toutes les deux disaient « Happy birthday, 15 years ». C'était de banales cartes d'anniversaire. La première carte était adressée à Hilde Möller-Knag, aux bons soins de Sophie Amundsen. Mais l'autre carte était adressée à Sophie en personne. Toutes les deux portaient le cachet du contingent des Nations Unies du 15 juin. Sophie lut d'abord la sienne. Chère Sophie Amundsen, c'est aussi aujourd'hui ton anniversaire. Alors, je t'adresse toutes mes félicitations. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour Hilde jusqu'ici. Bien amicalement, le major Albert Knag. Sophie ne savait pas si elle devait ou non se réjouir de ce que le major lui adresse enfin personnellement une carte. En un sens, c'était plutôt touchant. Le texte de la carte pour Hilde disait quant à lui « Ma petite Hilde chérie, je ne sais quel jour ni quelle heure il est à l'île Sand. Mais au fond, quelle importance! Si je ne me trompe, il n'est pas encore trop tard pour te souhaiter une dernière ou avant-dernière fois un bon anniversaire d'ici. Mais il ne faut quand même pas trop traîner au lit. Alberto va bientôt entretenir des idées du siècle des Lumières en France. Son cours porte sur les 7 points suivants. 1. La révolte contre l'autorité. 2. Le rationalisme. 3. La pensée du siècle des Lumières. 4. L'optimisme culturel. 5. Le retour à la nature. 6. La religion naturelle. 7. Les droits de l'homme. Il était clair que le major ne les perdait pas de vue. Sophie ouvrit la porte d'entrée et déposa son bulletin avec tous les très bien sur la table de la cuisine. Puis, elle ressortit et se glissa sous la haie pour gagner la forêt. Elle dut retraverser le lac en barque. Alberto l'attendait sur le seuil de la porte et lui fit signe de venir s'asseoir à côté de lui. Il faisait beau, mais un petit air frais revigorant montait du lac, comme si l'orage ne s'était pas éloigné depuis longtemps. « Allons droit au but, » dit Alberto. Après Hume, le grand système philosophique fut celui de Kant. Mais la France comptait au XVIIIe siècle de nombreux penseurs. En fait, on pourrait résumer en disant que l'Angleterre était le centre de la philosophie au début, l'Allemagne au milieu et la France à la fin du XVIIIe siècle. Un mouvement tournant, si je comprends bien. Tout à fait. Je vais passer en revue quelques-unes des pensées générales partagées par la plupart des philosophes français du siècle des Lumières. Je veux parler de grands noms comme Montesquieu, Voltaire, Rousseau et tant d'autres. j'ai choisi de traiter 7 points principaux. Merci, je suis déjà au courant de tout ce qui va me tomber dessus, coupa Sophie en lui tendant la carte du père de Hilde. Il aurait pu éviter de se donner ce mal, soupira Alberto. Bon, la première notion clé, c'est celle de révolte contre l'autorité. De nombreux philosophes français s'étaient rendus en Angleterre qui, à cette époque, jouissaient, sur bien des plans, d'une plus grande liberté que leur propre pays. Ils furent fascinés par la science expérimentale anglaise, tout spécialement par Newton et sa physique universelle, mais aussi par la philosophie britannique et Locke avec sa conception de la politique. En rentrant chez eux, ils se rebellèrent à leur tour contre les anciennes autorités. Il était essentiel d'avoir une attitude critique vis-à-vis de la tradition philosophique. L'idée était que l'individu seul doit être à même de répondre aux questions qu'il se pose. L'exemple de Descartes, on le voit, a fait des émules. Il avait tout repris à la base, lui. Justement, cette révolte contre l'autorité sous toutes ses formes s'adressait aussi bien au pouvoir de l'Église, du roi ou de la noblesse. Il faut dire qu'au XVIIIe siècle, ces institutions étaient beaucoup plus puissantes en France qu'en Angleterre. Alors, ce fut la Révolution. En 1789, oui. Mais les nouvelles idées circulaient bien avant. Parlons à présent du rationalisme. Je croyais que la mort de Hume avait marqué la fin du rationalisme. Hume ne mourut qu'en 1776. C'est-à-dire environ 20 ans après Montesquieu et seulement 2 ans avant Voltaire et Rousseau, qui moururent tous deux en 1778. Tous les trois avaient été en Angleterre et connaissaient bien la pensée de Locke, qui, tu t'en souviens, n'avait rien d'un empiriste pur et dur. Selon lui, Dieu et certaines normes morales étaient innées dans la raison de l'homme. On retrouve cela en France au cœur de la philosophie des Lumières. Tu as dit un moment que les Français ont toujours été plus rationalistes que les Britanniques. Cela remonte au Moyen-Âge. Quand les Anglais parlent de « common sense », les Français préfèrent dire « évidence ». On pourrait traduire l'expression anglaise par « bon sens » et le terme français par « ce qui s'impose clairement à l'esprit », c'est-à-dire la raison. Je comprends. Les philosophes du siècle des Lumières se situaient dans la tradition des humanistes antiques, tels Socrate et les stoïciens, puisqu'ils avaient une foi inébranlable en la raison de l'homme. Aussi, certains se contentèrent d'appeler le siècle des Lumières le siècle du rationalisme. La nouvelle science expérimentale avait établi que la nature suivait des règles bien précises. Les philosophes s'assignèrent comme tâche de jeter les bases rationnelles de la morale et de la religion. Cela nous mène à la pensée proprement dite du siècle des Lumières. C'était ton troisième point, non? Oui. Il s'agissait maintenant d'éclairer les couches profondes de la population. C'était la condition sine qua non pour fonder une meilleure société. La misère et l'exploitation n'étaient selon eux que la conséquence de l'ignorance et de la superstition si répandue parmi le peuple. C'est pourquoi les philosophes de cette époque accordèrent une place primordiale à l'éducation du peuple et des enfants. Ce n'est pas un hasard si la pédagogie date du siècle des Lumières. Si je comprends bien, l'école date du Moyen-Âge et la pédagogie du siècle des Lumières. Si tu veux, oui. L'œuvre marquante du siècle des Lumières fut une grande encyclopédie, et cela est significatif. Cette encyclopédie, en 28 volumes, parut de 1751 à 1772, avec la collaboration de tous les grands philosophes du siècle des Lumières. On y trouve tout, disait-on, de la manière de fabriquer une aiguille à la manière de fondre un canon. Tu voulais aussi parler de l'optimisme culturel. Tu ne pourrais pas laisser la carte de côté pendant que je te parle? Pardon. Ces philosophes pensaient qu'il suffisait de répandre la raison et la connaissance pour que l'humanité progresse à grands pas. Ce n'était qu'une question de temps pour que l'ignorance et la superstition cèdent la place à une humanité éclairée. Le progrès est une bonne chose s'il suit la lumière naturelle de la raison. Pour certains, le nouveau mot d'ordre fut « le retour à la nature ». Mais pour ces philosophes, le mot « nature » signifiait presque la même chose que « raison ». Car la raison de l'homme est pour eux une donnée de la nature. Le « bon sauvage » fut cité en exemple parce qu'il n'était pas corrompu par la civilisation. Nous devrions retourner à la nature, telle est la formule de Jean-Jacques Rousseau. Car la nature est bonne, et l'homme est, par nature, bon. Tout le mal réside en la société. L'enfant devrait, selon lui, avoir le droit de vivre dans son état d'innocence naturelle, aussi longtemps que possible. Là encore, le statut particulier de l'enfance date du siècle des Lumières, alors qu'avant, ce n'était qu'une préparation à la vie d'adulte. Nous sommes en effet des êtres humains et vivons notre vie sur Terre même lorsque nous sommes enfants. Ça paraît pourtant une évidence. Quant à la religion, il fallait qu'elle redevienne naturelle. Comment ça? La religion devait retrouver des racines rationnelles et beaucoup luttèrent pour imposer ce qu'on pourrait appeler une religion naturelle. C'est mon sixième point. De nombreux matérialistes, dignes de ce nom, ne croyaient en aucun dieu et affichaient un athéisme de bon aloi. Cependant, les philosophes du siècle des Lumières trouvaient qu'on ne pouvait concevoir un monde sans dieu. Le monde était trop soumis à la raison pour envisager une telle possibilité. Newton partageait ce point de vue. La croyance en l'immortalité de l'âme relevait davantage du domaine de la raison que de celui de la foi, exactement comme pour Descartes. Ça, c'est un peu bizarre, car c'est vraiment un exemple pour moi de ce qui relève typiquement de la foi et non du savoir. Mais tu ne vis pas au XVIIIe siècle. Ce que les philosophes du siècle des Lumières voulaient, c'était dépoussiérer le christianisme de tous ses dogmes arbitraires et de ses professions de foi qui venaient se substituer au message de Jésus dans le cours de l'histoire de l'Église. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Beaucoup se déclarèrent pour ce qu'on a appelé le déisme. C'est quoi? Le déisme est une conception selon laquelle Dieu a créé le monde il y a très très longtemps et ne s'est pas manifesté depuis. Dieu se réduit donc à un être suprême qui ne se révèle qu'à travers la nature et ses lois, et non de manière surnaturelle. Chez Aristote aussi, nous avions trouvé la présence d'un Dieu philosophique. Dieu était la première cause ou le premier moteur de l'univers. Il ne reste plus qu'un dernier point, et c'est la question des droits de l'homme. C'est peut-être le point le plus important de tous. En effet, les philosophes français du siècle des Lumières avaient un sens pratique beaucoup plus développé que leurs compatriotes anglais. Ils mettaient en pratique leur théorie philosophique? Oui. Ils luttaient pour la reconnaissance des droits naturels des citoyens. Il s'agissait tout d'abord de la censure, c'est-à-dire de la liberté d'expression dans le domaine de la religion, de la morale et de la politique. Chacun devait pouvoir penser librement et exprimer ses convictions. Et il s'agissait aussi de lutter contre l'esclavage et d'adoucir le traitement des criminels. Difficile de ne pas être d'accord sur tous ces points, je trouve. Le principe de l'inviolabilité de tout individu est exposé à la fin de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fut rédigée par l'Assemblée nationale française en 1789. La Constitution norvégienne de 1814 s'en est très largement inspirée. Et pourtant, il y en a tant qui se battent encore aujourd'hui pour faire reconnaître leurs droits. Oui, malheureusement. Les philosophes des Lumières voulaient établir les droits inaliénables de chaque individu, du seul fait qu'il est né homme. C'est ce qu'on entend par « droit naturel » et qui bien souvent s'oppose aux lois en vigueur dans tel ou tel pays. Et c'est au nom de ce « droit naturel » que des personnes ou des couches de population se révoltent pour conquérir un peu plus de liberté et d'indépendance. Et qu'en est-il du droit des femmes? La révolution de 1789 établissait un certain nombre de droits qui valaient pour tous les citoyens. Il est clair qu'on entendait surtout par là les hommes. Cependant, c'est précisément sous la Révolution française que nous voyons les premiers mouvements de lutte des femmes. Ce n'était pas trop tôt. Dès 1787, le philosophe Condorcet publia un écrit sur les droits des femmes, où il déclare que les femmes ont les mêmes droits naturels que les hommes. Sous la Révolution, les femmes furent fort actives dans le combat contre l'Ancien Régime. Elles étaient, par exemple, à la tête des manifestations qui contraignirent le roi à s'enfuir du château de Versailles. À Paris, il y eut plusieurs salons tenus par des femmes qui revendiquaient les mêmes droits politiques que les hommes, mais aussi des réformes concernant le mariage et le statut social de la femme. Est-ce qu'elles obtinrent gain de cause? Non. Comme bien souvent, ces questions étaient liées au contexte général d'une révolution. Dès la Restauration, on revint à l'ordre social traditionnel avec la domination masculine habituelle. C'est toujours la même chose. Une de celles qui luttèrent pour l'égalité des droits entre hommes et femmes fut Olympe de Gouges. En 1791, 2 ans donc après la Révolution, elle publia une déclaration sur les droits des femmes, puisqu'elle n'avait pas eu voix au chapitre dans la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et alors? Elle fut guillotinée en 1793 et toute action politique fut désormais interdite aux femmes. Mais c'est incroyable! Il fallut attendre le 19e siècle pour qu'il y eût un nouveau mouvement des femmes en France et dans toute l'Europe. Petit à petit, les femmes gagnèrent du terrain et en Norvège, par exemple, elles obtinrent en 1913 le droit de vote. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir quand on voit ce qui se passe dans certains pays. Pour ça, oui. Alberto se tut un instant et regarda le lac. Voilà en gros ce que je tenais à t'apprendre sur le siècle des Lumières, dit-il au bout d'un moment. Pourquoi en gros? Je crois que je n'ai plus grand-chose à dire sur le sujet. Pendant qu'il prononçait ces mots, il se passait quelque chose là-bas, au milieu du lac. L'eau semblait bouillonner, et surgissant des profondeurs, une forme énorme et hideuse apparut à la surface de l'eau. « Un serpent de mer !» hurla Sophie. La créature monstrueuse sortit plusieurs fois hors de l'eau, avant de replonger dans les profondeurs et de laisser la surface de l'eau redevenir aussi calme qu'auparavant. Alberto avait détourné le regard. « Allez, on rentre, » dit-il. Ils se levèrent et entrèrent dans le chalet. Sophie se plaça devant les tableaux de Berkeley et Bierkeli. Elle montra du doigt ce dernier. « Je crois que Hilde habite quelque part à l'intérieur du tableau. » Entre les tableaux se trouvait à présent une tapisserie sur laquelle était brodée en lettres capitales « Liberté, égalité, fraternité ». « C'est toi qui l'as accroché là ?» demanda Sophie en se tournant vers Alberto. Celui-ci se contenta de secouer la tête en faisant une grimace de découragement. À cet instant, Sophie aperçut une enveloppe posée sur le rebord de la cheminée. Elle portait la mention « Pour Hilde et Sophie ». Inutile de demander de la part de qui, mais que son nom à elle y soit aussi était pour le moins surprenant. Elle ouvrit l'enveloppe et lut à haute voix. « Mes chères petites, le professeur de philosophie de Sophie aurait dû insister sur le fait que les Nations Unies reposent sur les idéaux et les principes des philosophes français du siècle des Lumières. C'est ce slogan de « liberté, égalité, fraternité » qui a soudé ensemble tout le peuple français. Il faudrait que ces mêmes mots unissent aujourd'hui le monde entier. Toute la Terre devrait plus que jamais ne former qu'une seule grande famille. Nos descendants sont nos propres enfants et petits-enfants. De quel monde vont-ils hériter?
La mère de Hilde lui cria que Derrick commençait dans 10 minutes et qu'elle avait mis la pizza au four. Hilde se sentait complètement épuisée après tout ce qu'elle avait lu. Elle était réveillée depuis 6 heures ce matin. Elle prit la décision de passer le reste de la journée avec sa mère et de la laisser fêter son anniversaire comme elle l'entendait. Mais elle avait une dernière chose à vérifier dans son encyclopédie. Gouges. Non. De Gouges, rien non plus. Et Olympe de Gouges, toujours rien. Son encyclopédie ne disait pas un traître mot de celle qui fut guillotinée à cause de son engagement politique pour la lutte des femmes. N'était-ce pas vraiment scandaleux? Elle n'était pourtant pas un personnage inventé par son père. Hilde se précipita au rez-de-chaussée pour chercher le grand Larousse. « Je veux juste vérifier quelque chose », lança-t-elle à sa mère interloquée. Elle emporta le volume qui allait de F à G et remonta dans sa chambre. Gouges. Ah, enfin. Gouges, Marie-Olympe. 1748-1793. Écrivain français qui joua un grand rôle sous la Révolution en publiant notamment de nombreux pamphlets sur les questions sociales et des pièces de théâtre. Elle fut une des rares femmes à revendiquer l'égalité des droits entre les hommes et les femmes et publia en 1791 une Déclaration des droits des femmes. Fut guillotinée en 1793 pour avoir osé défendre Louis XVI et critiquer Robespierre. Elle, la Cour, les origines du féminisme contemporain, 1900.